Les priorités santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.
Priorité santé pour nous, les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Santé au féminin pour ce rendez-vous du vendredi pour évoquer le suivi et la prise en charge en cas de présence de fibromes utérins. Ces tumeurs bénignes qui peuvent être découvertes sans signe annonciateur à l'occasion d'un examen ou être dépistées suite à des symptômes caractéristiques. Nous évoquerons au cours de l'émission ces signes qui doivent alerter. Symptômes, diagnostics et conséquences des fibromes. Dans quel cas leur présence peut freiner la survenue d'une grossesse? Quels sont les principaux facteurs de risque? Une femme sur trois et jusqu'à une femme sur deux, dans certaines régions du monde, est concernée par ces fibromes entre 35 et 50 ans. Et l'activité hormonale peut, dans certains cas, favoriser la survenue de ces myomes. Ce qui explique qu'avant la ménopause, les fibromes peuvent constituer un motif important d'intervention chirurgicale dans la zone de l'utérus. Nous verrons comment le choix du traitement dépend non seulement de l'importance des symptômes, mais aussi de l'âge et des projets de la patiente. Vos questions, c'est bien sûr au 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission. Des réponses, des conseils et de l'écoute. C'est tout de suite dans Priorité Santé. Écoutez conseil, et nous avons une nouvelle fois le plaisir de vous retrouver dans les studios en full déhaiement d'un camp de RFI à Dakar, dont on remercie toute l'équipe pour son accueil. Docteur Abdoulaye Diop, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes gynécologue obstétricien, docteur Diop, médecin-chef à la clinique Nest à Dakar au Sénégal.
Notre santé, si on en parlait.
Docteur Abdoulaye Diop, notre sujet du jour donc, les fibromes utérins. J'ai employé tout à l'heure le terme de tumeur. Alors on dit attention hein, parce que ce mot peut faire un petit peu peur quand il est associé à des maladies graves, comme par exemple au cancer. Mais pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, quand on parle des myomes, il s'agit de tumeurs bénignes et c'est toujours important de le souligner.
Exactement. Il s'agit effectivement de tumeurs bénignes qui n'ont rien à voir avec le cancer. C'est tout le contraire. Même si ce mot tumeur, on évite de l'utiliser parce que justement, ça fait référence au cancer en général et donc ça peut faire peur.
Alors, quand on parle de fibromes, ces boules, ces grosseurs, c'est composé de quoi ?
Ces fibromes, qu'on appelle aussi les myomes, ou qu'on appelle ainsi aussi les fibromyomes ou les leiomyomes, ce sont des boules de tissu, disons, conjonctif, c'est comme des boules de chair, qui sont disséminées un peu autour de l'utérus, dans l'utérus, selon les différentes parties de l'utérus. Et on peut aussi en trouver au niveau des seins.
Alors, on parle, docteur Diop, de grosseur bénigne, mais pour autant, dans certains cas, ces grosseurs ne sont pas sans conséquences pour la santé des femmes. On va l'entendre tout à l'heure avec les témoignages des auditrices. Des conséquences qui se traduisent notamment par une série de symptômes qui peuvent aller jusqu'à la chirurgie hein, en termes d'intervention quand on est en présence de ces problèmes de santé. On va en reparler là encore. Mais tout d'abord, docteur, quels signes doivent pousser les femmes à consulter un gynécologue? On parle là donc du diagnostic après des symptômes, alors qu'il y a également des diagnostics, on va dire, au hasard d'une exploration.
Oui, les fibromes sont très fréquents chez les femmes. On peut dire que presque la moitié, parfois même plus de la moitié des femmes peuvent avoir des fibromes dans certaines régions. La plupart de ces fibromes sont asymptomatiques. Il n'y a aucun signe. Et c'est au décours d'un examen complémentaire, d'une échographie principalement, pour une grossesse ou pour autre chose, que l'on découvre qu'il y a effectivement des fibromes et ils ne donnent aucun signe. Dans la moitié des cas, ces fibromes peuvent donner des signes, principalement des douleurs, que ce soit des douleurs pendant les règles ou des douleurs en dehors des règles, ou bien des saignements, qu'on appelle des métrorragies, si elles surviennent en dehors des règles, ou bien une augmentation du saignement pendant les règles, qu'on appelle des ménorragies. Et enfin, ces fibromes peuvent parfois aussi donner une augmentation de volume de l'utérus, notamment lorsqu'ils sont périphériques, lorsqu'ils sont superficiels, et donner un aspect de gros ventre, ou même parfois l'aspect d'une grossesse, alors qu'il n'en est rien. Et enfin, les fibromes peuvent être à l'origine soit de problèmes d'infertilité, ou bien d'avortement à répétition.
Est-ce qu'il y a un âge fréquent pour ce diagnostic ?
Les fibromes apparaissent entre la puberté et la ménopause. C'est le mécanisme de survenue des règles du cycle menstruel qui est à l'origine de l'installation des fibromes, entre autres. Et donc, on retrouve les fibromes principalement à partir de la puberté. Mais l'âge moyen d'apparition des fibromes, c'est aux alentours de entre 20 et 30 ans.
Est-ce que la localisation de ces fibromes, docteur Diop, ça constitue un critère important pour déterminer une prise en charge particulière, s'il faut, oui ou non, traiter ?
Oui, c'est la localisation des fibromes qui détermine la symptomatologie. Grosso modo, on peut diviser l'utérus en trois parties. La partie la plus externe qu'on appelle la séreuse, la partie moyenne qu'on appelle la musculeuse et la partie centrale qui est la partie fonctionnelle ou utile de l'utérus qu'on appelle la muqueuse. Les fibromes situés dans la muqueuse, c'est-à-dire la partie dans laquelle va se loger la grossesse, ce sont ces fibromes-là qui peuvent poser problème et ce sont les plus symptomatiques. Ce sont eux qui sont à l'origine principalement des saignements, des métrorragies ou même des difficultés à tomber enceinte. Les autres fibromes localisés au niveau du muscle ou bien de la périphérie donnent rarement des symptômes, mis à part peut-être des douleurs, mais ce ne sont pas des fibromes qui ont un impact sur le côté ou le rôle fonctionnel de l'utérus, et donc ce sont des fibromes qui nécessitent rarement des traitements, mis à part évidemment les cas où c'est extrêmement douloureux, où on est obligé d'intervenir et donner un traitement antidouleur.
Et on comprend bien que les patientes sont à la recherche d'explications, hein, docteur Abdoulaye Diop, pour comprendre ce qui leur arrive. Pourquoi moi, dans le cas des fibromes, est-ce qu'il y a des explications et puis peut-être aussi des facteurs de risque ?
Le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où viennent les fibromes. On ne connaît pas quelle est la cause primaire de l'apparition des fibromes. On a simplement des facteurs génétiques, principalement l'hérédité. Lorsque votre maman en a eu, lorsque votre tante, votre sœur en a eu, vous risquez d'en avoir. Donc il y a probablement une consonance héréditaire. On sait que aussi certaines populations ont plus de fibromes que d'autres, notamment les populations noires ont beaucoup plus de fibromes que les populations blanches. Ça, c'est un fait statistique. Et on sait qu'il y a aussi certaines pratiques, même si tous les médecins ne sont pas d'accord, qui peuvent favoriser l'apparition des fibromes, telles que le défrisage des cheveux. Mais en gros, on ne sait pas trop exactement ce qui donne les fibromes. On sait aussi que les femmes qui tardent un peu à avoir des enfants, pour X raisons, sont plus enclines à avoir des fibromes que d'autres femmes. La nature ayant horreur du vide, si vous avez des prédispositions génétiques à faire des fibromes et que vous ne tombez pas enceinte, il y a de fortes chances que vos fibromes se développent plus rapidement et plus nombreux qu'une femme qui fait des grossesses régulièrement.
Alors, des traitements multiples, parfois pas besoin de traitement. Et pour certaines femmes, la crainte de la récidive, c'est par exemple ce qu'exprime dans son message Facebook Fanta de Bamako. Au Mali, elle écrit « J'ai 36 ans, j'ai eu deux fibromes. J'ai été opérée en juillet dernier pour les retirer. Tout va bien pour le moment. Comment faire pour ne plus avoir de fibromes ? Est-ce que certaines femmes vont se débarrasser définitivement de ces myomes avec une intervention chirurgicale, alors que pour d'autres, eh bien ça ne va être que temporaire ?
Dans la moitié des cas, après une intervention chirurgicale, lorsqu'on enlève le fibrome, au bout de 3-4 ans, le fibrome a tendance à récidiver. C'est pour ça que lorsqu'on décide pour prendre la décision d'opérer ou pas, on voit avec la patiente quels sont ses projets plus ou moins à long terme de maternité. Pour voir est-ce qu'on peut se lancer tout de suite sur une intervention chirurgicale ou bien est-ce qu'il faut attendre un peu. Si on a, comme on l'a dit tout à l'heure, des prédispositions génétiques à avoir des fibromes, si on fait la myomectomie, on enlève les fibromes et qu'on reste 2-3 ans sans avoir d'enfant, malheureusement, ces fibromes ont tendance à revenir et souvent, ils sont encore plus gros.
Est-ce que dans la plupart des cas, docteur Diop, un autre traitement, un hormonal par exemple, accompagne la prise en charge chirurgicale ?
Il existe des traitements hormonaux que l'on peut utiliser en préparation d'une chirurgie. Lorsque les fibromes sont volumineux, vraiment très volumineux, alors on sait que la chirurgie des fibromes est une chirurgie très sanglante, ça saigne beaucoup. Il arrive d'injecter des hormones qui vont avoir comme effet de réduire la taille des fibromes. Et c'est une réduction de plus de 50%. Mais c'est une réduction qui est temporaire. Cette réduction dure en moyenne 3 mois et on met à profit ces 3 mois pour justement opérer rapidement ces fibromes qui ont réduit de taille avant qu'ils ne récidivent, car quand ils récidivent, ils deviennent encore plus gros et donc encore plus sanglants.
Alors tout de suite, un des premiers témoignages. C'est en effet le moment de retrouver notre palabre féminin. Elles sont deux aujourd'hui au micro de Charlie Dupiot, Fatoumata et Fifi, elles ont 41 ans. C'est Fifi qui entame la discussion, elle qui a été concernée par le sujet et elle en conserve même quelques souvenirs sur son téléphone.
C'était en 2010. Je ne savais pas c'est quoi le fibrome, je ne savais pas c'est quoi le myome, des histoires comme ça, je ne savais pas. Mais je sentais que j'avais des douleurs. À chaque fois, j'essayais de peu de me baisser. J'avais des douleurs au bas-ventre, là, comme genre une crampe, là, au bas-ventre. J'étais du genre mince. J'avais pas de ventre. Et puis, on me disait, mais toi, tu grossis, toi. Donc, tu as vu ton ventre. Et tellement que j'avais très mal, très mal. Je suis allée voir le gynéco. Je suis allée faire l'échographie. Et il me dit, ah, vous avez les myomes, le fibrome. Moi, je dis, c'est quoi ça? Il m'a dit, vous devez vous faire opérer. Moi, j'ai dit, non, écoutez, moi, j'ai expliqué au médecin. Parce que je ne connaissais pas. J'ai dit, mais écoutez, je vais prendre les antibiotiques et puis ça va passer. Il m'a dit, non, vous devez être opéré. Moi, j'ai dit, non, vous êtes, non, ça va aller. Et puis, moi, j'ai dit, non. Il a dit, attention, parce que là...
Tu ne connaissais pas avant, c'est pour cela que tu l'as pris à la légère.
Je banalisais un peu la chose. Je croyais que c'était l'infection normale. Puis, on va prendre des antibiotiques, ça va passer. Il m'a dit, attention, au fur et à mesure, ça pousse. Et puis, c'est vrai qu'il avait raison. Au fur et à mesure, j'avais des douleurs. J'ai vécu avec la douleur pendant 6 ans.
6 ans?
Oui, je prenais des
cartes. Et 6 ans, le ventre, il s'est grossi
d'avant. Le ventre, là, vous voyez, à chaque fois que j'ai passé, on me disait, mais toi, finalement, on me disait, mais tu es enceinte de 8 mois, 9 mois. Vous voyez le ventre, vous voyez mon ventre.
Quoi? Ça, on dirait que tu étais enceinte de 9 mois.
Ben voilà. Vous voyez? J'avais pris ça en souvenir.
Une photo de vous, de votre ventre qui est effectivement très arrondi.
Là, franchement, c'est ce ventre, on dirait un bébé de 9 mois.
Et puis j'avais le ventre. Quoi.
Parce que là, on voit que ça a descendu. Là.
Ça a descendu parce que je me suis fait opérer. On m'a enlevé, je crois, c'était 45 ou 46. C'était au pays, au Congo, Kinshasa.
45 quoi?
Myome, j'ai des photos.
J'ai jamais entendu ça. 45 myomes.
Il y avait des grands-parents, il y avait des petits-enfants. C'est comme ça que les médecins me disaient.
C'est une descendance, quoi, on va dire.
Toute une famille, là. Quand on m'a fait... Vous savez, l'opération a commencé à 10h à 18h.
Quoi? T'as passé toute la journée...
Toute la journée. J'avais toute une génération des myomes. Oui, en moi. Je sais pas, il y a un terme médical qui dit que c'était en dehors de... C'était pas à l'intérieur.
Extra-intérieur.
Voilà. J'ai des photos que j'ai gardées en souvenir. Hein.
Les photos des myomes.
Oui, quand je me suis fait opérer, je... Oh, c'est ça d'être ici.
Ah là, c'est tous les myomes. Ouh. Oh, c'est dégoûtant. En photo qui sont comme ça sur une petite table d'opération.
Oui, il y avait la toute une
génération. J'ai jamais vu ça. C'est des grosses boules rouges qui sont là. On dirait que c'est une boule de chair.
Oui, voilà. Et puis ma chambre, là où j'étais, chambre, c'était comme du genre musée. Là, tout le monde venait me voir. Ah, c'est qui la dame?
Ah,
tu es
devenue une star de l'hôpital.
Oui,
parce que c'est jamais vu. Moi, j'aimerais savoir, quand ils vous ont fait l'opération, c'était avant que tu n'aies ces deux enfants ou après?
Non, c'était après. C'était encore revenu. Je suis allée, quand je suis venue en France, je me suis dit, je vais faire contrôle des routines pour voir comment ça se fait. Il y a le gynéco qui m'a dit, je ne sais pas ce que vous allez me dire parce que vous m'avez dit que vous étiez opérée. Moi, je trouve que c'est comme s'ils n'ont rien fait. Moi, j'ai dit, quoi? Je vais encore passer par là? Moi, j'ai dit, je suis africaine, je vais prendre des plantes.
C'est là que j'allais dire.
Je suis allée sur YouTube, je commençais à prendre des jus là, des mélanges et tout. J'ai pris, j'avais fait les petits colas, oui. Les petits colas, le gingembre avec l'ail, mais c'est ce qui est bio. Ça m'a aidé. Oui, ça m'a aidé parce que je suis allée faire l'échographie. Par rapport à ce qu'ils ont dit la première fois, ils m'ont dit, mais vous avez toujours des petites myomes là.
Ah oui. Ouais, ça commence à prendre, à fondre.
Je pense que si j'aurais la chance ou la grâce de tomber enceinte, ils m'ont dit peut-être que ça va disparaître. Dans l'entretemps, je me fais consulter à l'hôpital de la Fontaine.
À Saint-Denis,
oui. Quand je me suis fait consulter, le gynéco m'a dit pouvoir avoir la chance d'avoir encore des enfants. Oui, ne fût-ce qu'un enfant pour la route.
Et elle garde le sourire Fifi au micro de Charlie Dupiot, docteur Abdoulaye Diop. Là, on a vraiment une illustration dans ce qu'il y a de plus spectaculaire.
Exactement. Les fibromes, lorsqu'on les opère, habituellement, on en sort beaucoup. Elle a parlé d'une quarantaine de fibromes. C'est très fréquent. Certains ont la taille d'un grain de riz. D'autres peuvent avoir la taille d'une orange ou même d'une pastèque. C'est parfois extrêmement impressionnant.
Ça veut dire que cette femme, après cette opération, elle a pu avoir perdu plusieurs kilos ?
Oui, parfaitement. On peut avoir jusqu'à 8-10 kilos même de fibromes que l'on enlève dans les cas extrêmes. Même si habituellement on sort environ 500 voire 1 kilo. 500 grammes voire 1 kilo.
C'est quelque chose de très impressionnant. On va partir maintenant pour le Cameroun.
RFI à Douala, 97.8 FM.
À Douala, en ligne avec nous. Rosalie, bonjour.
Bonjour.
Rosalie, j'adore votre prénom. Vous avez 38 ans et pour vous, le diagnostic de fibrome, ça remonte à 4 ans. Est-ce que vous aviez eu avant cela des symptômes particuliers ?
Non, avant cela, c'est vrai, avant cela, j'avais eu un saignement. J'étais hospitalisée pour un problème de santé, j'avais une plaie. Et j'ai fait un an d'hospitalisation. Et c'est pendant cette hospitalisation que j'ai eu un saignement sur un mois. C'est étalé sur un mois. Je suis allée voir le médecin gynécologue du coin, puisque j'étais dans la région de l'Ouest en ce moment. Il m'a fait une échographie. On a découvert une dystrophie ovarienne gauche. Et les kystes des myomes qui étaient à 4 cm. De retour à Douala, j'ai consulté un autre gynécologue qui m'a fait faire plusieurs examens dont je ne maîtrise pas très bien le nom. Et on a découvert ces mêmes kystes et ces mêmes myomes. Et depuis près d'un an, je ne saigne pas du tout.
Ça veut dire que vous n'avez plus de règles, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et vous prenez un traitement ? Le gynécologue vous a donné des médicaments en particulier ?
Il m'avait mis sous du Fastone. J'ai pris 3 boîtes, ça n'a pas résolu le problème.
Alors, on demandera tout à l'heure au médecin, c'est quoi précisément ce médicament. J'ai une question, vous disiez, depuis un an, plus de règles. Est-ce que vous avez fait un bilan hormonal, Rosalie ?
Oui, j'ai fait. Bon, c'est vrai que j'ai pas je ne suis pas à la maison pour avoir les fiches sous mes yeux.
Oui.
J'ai fait un ensemble d'examens que le médecin m'a prescrit. Parce que je ne sais pas trop ce qu'il recherchait. Là, je suis au bureau, je ne suis pas à la maison pour vous.
D'accord, il n'y a pas de souci. Une question importante, Rosalie. Est-ce que vous avez déjà eu des enfants ?
Non, pas du tout.
Et vous avez un projet en ce sens ? Vous souhaiteriez devenir maman ?
Oui.
Donc, c'est aussi pour ça que vous vous posez des questions par rapport à votre cycle et par rapport à la présence de ces fibromes.
Justement.
D'accord. Alors, le docteur Diop est à votre écoute, Rosalie. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment.
Non, pour le moment, je n'ai pas d'autres questions.
C'est justement sur le lien entre les fibromes et l'arrêt, la suspension du moins de vos règles et votre capacité à enfanter, c'est ça ?
Oui, et le docteur m'a dit que ces fibromes étaient situés à l'entrée de la cavité utérine.
Docteur,
et il ne me préconisait pas une opération.
Une opération. Docteur Diop, qu'est-ce que vous pouvez dire à Rosalie, hein ? Je disais tout à l'heure, elle est âgée de 38 ans.
Oui, Rosalie semble avoir deux pathologies gynécologiques. Il y a ses fibromes, qui d'après son médecin ne sont pas méchants, situés à l'entrée de la cavité utérine, 4 cm. Mais elle a surtout une dystrophie ovarienne. Et je pense que c'est cette dystrophie ovarienne qui est à l'origine de l'arrêt de ses règles. Donc comme vous lui avez suggéré, elle devrait faire un bilan hormonal complet, vérifier si cette dystrophie ovarienne a un impact sur sa fertilité, les différentes hormones, FSH, estradiol, etc. Voir avec son médecin est-ce la nécessité ou non d'opérer ce fibrome. Bon, apparemment, ce n'est pas nécessaire de l'opérer, mais c'est plus cette dystrophie ovarienne dont il faudrait qu'elle s'inquiète pour avoir un enfant, plus que du fibrome, qui chez elle ne semble pas symptomatique.
Docteur Diop, une dystrophie ovarienne, pour expliquer à chacune et chacun d'entre nous, c'est quoi ?
Une dystrophie ovarienne, c'est un trouble endocrinien caractérisé chez les femmes par la présence de follicules en excès au niveau des ovaires, ce qui donne un aspect un peu bosselé des ovaires. Et les premiers médecins avaient pris ça pour des kystes de l'ovaire, concernant des ovaires polykystiques. Mais en réalité, ce sont des follicules en excès qui n'éclatent pas en temps et en heure, donnant des cycles extrêmement longs parfois.
Ça veut dire qu'on produit moins d'ovules et que de ce fait, on est moins fertile.
Pas obligatoirement moins fertile. Disons que ça veut dire que les ovaires sont, si j'ose dire, un peu paresseux. Et donc, le cycle de maturation d'un follicule qui, en moyenne, prend 14 jours pour arriver à l'ovulation, peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, on ovule chaque 2, 3 mois, ce qui donne des cycles extrêmement longs.
Dans le cas de Rosalie, ça veut dire qu'il faut retourner consulter. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer cette situation ?
Oui, son médecin la mettra certainement sous acide folique. L'acide folique, c'est de la vitamine B9 qui va aider à améliorer la qualité de l'ovulation. Il va faire un bilan hormonal, doser le taux de stradiol, le taux de prolactine. C'est souvent associé à un excès de prolactine qui, lui aussi, va concourir à bloquer l'ovulation. Et si nécessaire, elle aura besoin de prendre des médicaments tels que des inducteurs de l'ovulation pour justement provoquer des ovulations et augmenter ses chances de tomber enceinte.
Ça veut dire une prise en charge gynécologique. Voilà pour ces réponses du docteur Diop à vos différents question, Rosalie. Et on vous remercie beaucoup puisque vous êtes aujourd'hui la première programmatrice de Priorité Santé pour la musique. Votre choix, c'est ce titre de Sam Mendes, après lequel on va se retrouver avec d'autres questions d'auditrices pour vous, docteur Diop. Sam Mendes avec Rosita. Santé sur RFI, émission Questions de femmes pour répondre à toutes vos questions sur les fibromes utérins. Et nous sommes toujours en compagnie du docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien et médecin-chef à la clinique Nest à Dakar. Dakar donc dans les studios en Mandacan et full des deux RFI. Et c'est de cette même capitale du Sénégal que Joséphine nous a envoyé ce message enregistré sur le répondeur de Priorité Santé. On l'écoute.
RFI à Dakar, 92 FM.
Bonjour docteur, moi c'est Joséphine depuis Dakar et j'ai 39 ans. J'ai des myomes, 4 myomes depuis plus de 10 ans et ces temps-ci je prévois d'avoir des enfants. Maintenant j'aimerais savoir quelles sont les conséquences avec vu que les myomes sont en train de prendre de l'espace. Voilà, ça grandit donc j'aimerais savoir les conséquences et les risques. Merci beaucoup.
Docteur Abdoulaye Diop Joséphine, avec cette même préoccupation que notre auditrice précédente sur le lien entre la fertilité et les fibromes. Mais dans son cas, il y a donc cet autre facteur important, puisqu'elle l'a précisé elle-même. Ce facteur, c'est celui de l'âge.
Exactement. Elle a 39 ans. Bon, elle a 4 fibromes. Ce n'est pas tant le nombre de fibromes qui importe, c'est plus le type de fibromes, la localisation des fibromes dans son utérus, c'est ce qui peut avoir un impact sur sa fertilité. L'âge 39 ans, c'est quand même un âge où la fertilité naturelle chez la femme et chez l'homme, d'ailleurs, baisse. Donc, si elle veut avoir des enfants, je lui conseillerais de faire un bilan de fertilité avec son gynécologue, avec son conjoint aussi. Pour les fibromes, je ne pense pas que ça va poser problème. Et si c'est nécessaire, le médecin pourra lui donner des médicaments pour booster un peu sa fertilité.
Docteur Diop, est-ce que vous avez le sentiment, d'après ce que vous observez en consultation, qu'il y a, oui ou non, ou pas vraiment, une prise de conscience de ce facteur de l'âge en termes de projet de grossesse, ou au contraire, les femmes sont déjà bien sensibilisées sur cette question ?
Oui, chez nous, les femmes connaissent bien cette problématique des fibromes parce que 50% voire 80% de nos femmes ont des fibromes allant de la taille, comme j'ai dit, d'un grain de riz à la taille d'une orange. Donc, elles connaissent bien cette symptomatologie. Elles ont déjà fait le lien entre fibromes et retard à la maternité. Maintenant, chez nous, en Afrique toujours, les femmes ont tendance à faire des enfants beaucoup plus jeunes que chez peut-être vous en Europe. Donc, ça pose moins de problèmes. Le gros problème que nous remarquons, c'est plutôt une diminution globale de la fertilité dans les couples. Il y a 10 ans, dans ma consultation, j'avais peut-être 10% de patients qui venaient pour des problèmes de fertilité. En ce moment, le chiffre tourne raisonnablement autour de 60%. Mais ce n'est pas obligatoirement dû à des fibromes, mais dû à d'autres facteurs.
Ça veut dire aussi peut-être que les personnes consultent aussi davantage lorsque l'enfant tarde à venir.
Oui, ils consultent davantage, ils consultent même plus tôt. On a même beaucoup de couples qui viennent dès 2-3 mois de mariage, viennent consulter parce qu'il n'y a pas encore un enfant. Et là, on peut raisonnablement faire des bilans et vérifier, prendre les devants. Donc, ils consultent beaucoup plus tôt.
Vous ne leur dites pas d'attendre au moins une année ?
Statistiquement, les chances de tomber enceinte sont de 10% par mois. Et donc, il faut au moins entre 1 et 10 mois pour tomber enceinte. Si après 30 ans, ces 10 mois sont ramenés à 6 mois. Dans tous les cas, lors de la consultation, on donne des conseils, on donne les statistiques. Et si l'interrogatoire montre qu'il y a des facteurs dans la famille qui peuvent être à l'origine d'une infertilité, tels que des antécédents d'infertilité chez un membre de la fratrie ou autre, on n'attend pas ce délai de 10 mois, on fait les examens plus tôt.
D'accord, on va prendre tout de suite la direction du Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Et à Ouagadougou, c'est Aude qui est avec nous. Aude, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Priorité Santé.
Alors, vous avez 27 ans et c'est au cours de votre grossesse, Aude, il y a 2 ans, que vous avez découvert que vous étiez porteuse d'un fibrome. Dans quelles circonstances est-ce que vous avez fait cette découverte ?
Alors, lorsque je suis tombée enceinte, c'est au cours de l'échographie du premier trimestre qu'on a découvert, le gynécologue et moi, la présence d'un fibrome. Alors, j'étais très surprise parce que j'avais 25 ans en ce moment. Je me trouvais trop jeune pour avoir des fibromes. J'étais inquiète, mais tout s'est bien passé. La grossesse s'est bien déroulée. L'accouchement aussi, il n'y a pas eu de problème.
Il n'y a pas eu de problème. Est-ce qu'il y avait eu d'autres femmes dans votre famille qui avaient eu des fibromes ? Est-ce que vous en aviez parlé entre vous ?
Non, non, personne n'en avait.
Alors,
j'étais surprise.
Vous étiez étonnée parce que vous étiez jeune.
Voilà, 25 ans, j'étais étonnée vraiment.
Alors vous dites grossesse paisible, beau bébé. D'ailleurs, je crois qu'on entend sa petite voix derrière. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Ensuite, à l'échographie du deuxième trimestre, on a toujours vu le fibrome. Et par la suite, après l'accouchement, j'ai refait encore une autre échographie. Et le fibrome a disparu. On ne l'a plus vu. Voilà, moi, je suis un peu inquiète maintenant. Je me demande si je n'aurai pas de problème de fertilité par la suite. Est-ce que les fibromes ne vont pas revenir?
D'accord, ces inquiétudes, vous avez besoin d'explications aussi. Une première chose, docteur Abdoulaye Diop, pourquoi il y avait un fibrome donc, qui a été diagnostiqué pendant la grossesse? Pourquoi est-ce qu'il a disparu après l'accouchement?
Très difficile de répondre à cette question. Oui, on a eu des cas, mais très rares, où les fibromes ont disparu. Personnellement, j'ai eu deux cas comme ça. Une patiente que j'ai opérée à 8 ans pour des fibromes, justement. Quelques années après, je l'ai réopérée pour une césarienne. J'avais plus de fibromes. Honnêtement, jusqu'à présent, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Ben, le corps de la femme est plein de mystères. Tous les jours, on découvre des choses. Donc oui, il y a certainement des mécanismes physiologiques normaux chez la femme qui peuvent faire disparaître ses fibromes. Deuxièmement, ça peut être une erreur de diagnostic. Peut-être que ce qui avait été vu la première fois n'était pas des fibromes et que finalement, l'échographie après la grossesse a rétabli les faits. Mais il est très difficile de dire pourquoi les fibromes ont disparu.
En tout cas, il y a une forme d'inquiétude chez Aude, chez cette jeune maman. Elle se demande si, en quelque sorte, elle est prédisposée à refaire des fibromes plus tard. Elle a peur que ça revienne. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
La rassurer, Aude peut vraiment être rassurée. Non seulement, d'après ses antécédents, elle n'a pas de fibromes dans sa famille, alors qu'on sait qu'habituellement, les fibromes, c'est vraiment héréditaire. Deuxièmement, elle a eu un accouchement après une grossesse sans problème. Et troisièmement, le fibrome a disparu. Ben, tant mieux, c'est super pour elle. Et qu'elle n'a qu'à se rassurer et vivre sereinement sa vie. Il est peu probable que le fibrome revienne.
Et lorsque le fibrome reste présent au cours de la grossesse, ce que vous avez expliqué qui est le plus fréquent dans ces cas-là en général, docteur Abdoulaye Diop, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le développement du fœtus ou du bébé à naître?
L'association fibrome et grossesse peut avoir des conséquences réciproques. Il y a un impact ou une influence du fibrome sur la grossesse comme une influence de la grossesse sur le fibrome. Il y a d'abord ce qu'on appelle les nécrobioses. Durant la grossesse, le sang du fibrome ne peut plus être vascularisé correctement et être à l'origine de douleurs très, très, très atroces durant la grossesse, pouvant même conduire à un accouchement prématuré ou un avortement. C'est très fréquent. Le fibrome peut gêner le positionnement du bébé à l'intérieur de l'utérus et donner des présentations vicieuses telles que des présentations du siège ou bien des présentations transversales. Le fibrome pendant l'accouchement peut gêner le travail et donner des contractions pas très efficientes et donc empêcher l'ouverture correcte du col, ce qui peut nécessiter parfois une césarienne. Et enfin, le fibrome peut être à l'origine d'une hémorragie du postpartum après l'accouchement, soit en empêchant le placenta de sortir correctement ou bien en empêchant l'utérus de se rétracter correctement après l'expulsion du placenta et donner une hémorragie qui peut être parfois assez fatale. Donc il faut bien surveiller les grossesses, les fibromes pendant la grossesse et l'accouchement.
Mais en vous écoutant, docteur Diop, on peut dire qu'il y a de quoi s'inquiéter. Qu'est-ce que vous pouvez dire en même temps aux auditrices pour rassurer? C'est quoi la solution? C'est vraiment ce suivi gynécologique?
Oui, bon, ce qui rassure, c'est statistiquement les fibromes qui causent de gros problèmes, c'est 1%. C'est vraiment 1% des fibromes.
Ouais. Après les explications, il faut quand même ramener aux chiffres.
Voilà, donc c'est vraiment 1% sur 100 patientes qui ont un fibrome. Il n'y en a qu'une seule qui va avoir vraiment les grosses complications d'hémorragie et autres. Dans 99% des cas, ce sera juste des douleurs, des petits saignements et autres. Donc, il faut vraiment se rassurer, il n'y a pas besoin que ça déclenche une psychose.
Merci beaucoup et on remercie Aude pour son témoignage, pour ses questions. Et on part pour le Bénin où on va retrouver Pélagie. Pélagie a 28 ans. Elle est la maman d'un bébé d'un peu plus de 1 an, presque 13 mois. Ce bébé, elle l'allaite toujours et elle a enregistré ce message sur le répondeur de Priorité Santé.
J'ai un myome qui a été diagnostiqué en début 2020 lors de ma première consultation échographique. Je ne sais pas avec le temps, quand la grossesse évoluait, on m'avait dit que déjà... Ça ne sort pas parce que le fœtus avait pris la place du myome. Mais depuis que j'ai accouché, mon enfant a 1 an aujourd'hui, j'ai vraiment peur parce que je ne sais pas le développement du myome. La semaine passée, j'avais tellement peur que j'ai dû aller voir un gynéco pour refaire l'échographie pour voir éventuellement si ça a disparu ou c'est toujours à l'étape qu'on avait diagnostiqué il y a de cela 1 an. Et à ma grande surprise, c'est encore là, avec le même volume. C'est vrai, j'avais des problèmes gynécologiques. J'ai mon cycle menstruel qui n'est plus régulier. Tantôt ça vient, tantôt ça ne vient pas. Et c'est même pour cette raison que je suis allée voir le gynéco Ma question est, est-ce que l'évolution du fibromyome peut agir sur le cycle menstruel d'une femme? Et aussi, entre-temps, lors du premier diagnostic, j'avais demandé comment faire pour faire disparaître s'il y a des médicaments, si on doit me mettre sous traitement médicamenteux. Mais le gynéco, entre-temps, m'avait dit que ce n'est pas grave, ce n'est rien, donc ça ira. Et donc, on ne m'avait rien prescrit comme médicament. On me dit souvent que au stade final, c'est une opération chirurgicale qu'il faut. Donc, je ne sais pas, je voudrais savoir si peut-être le docteur a un traitement à nous faire parvenir ou bien c'est déjà ce que le gynéco nous a donné, l'information qu'il m'a donnée, si cette information est standard partout.
Alors évidemment, on le sait, hein, les conseils dans Priorité Santé, ça ne remplace pas ce que dit le médecin en consultation, docteur Abdoulaye Diop. En tout cas, ce qui est intéressant avec cette question de Pélagie, c'est que même si son gynécologue l'a informé, lui a donné des informations assez rassurantes, bah, elle est toujours très inquiète. Hein. Contrairement tout à l'heure à Aude, la grossesse ne semble pas avoir eu d'incidence ni sur la présence, ni sur le développement de son fibrome utérin. Pélagie qui est donc inquiète. Son gynéco lui dit qu'elle n'a pas besoin d'un traitement pour le myome. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a vraiment besoin d'être rassurée.
Oui, c'est une réaction typique que l'on voit souvent chez nos patientes qui sont très dubitatives lorsqu'on leur dit que vous avez un fibrome mais on ne traite pas. Bon, c'est un peu difficile à comprendre pour elles qu'on a une pathologie entre guillemets et qu'on ne traite pas. Donc là, il faut vraiment prendre la peine d'expliquer que la plupart des fibromes, la moitié des fibromes, comme c'est le fibrome de Pélagie, n'ont pas besoin d'être traités. Ce sont des fibromes asymptomatiques, qui ne donnent pas de douleur, pas de saignement, qui ne l'ont pas empêché de tomber enceinte, qui ne l'ont pas empêché d'opérer. Donc on ne va pas toucher à ce fibrome-là. Par contre, il faut une surveillance. Il faudrait faire des échographies de contrôle tous les 6 mois en moyenne, vérifier la taille du fibrome, vérifier sa localisation, faire une cartographie très précise des fibromes, vérifier ses rapports avec les organes voisins. Et cette prise en charge aujourd'hui qui dit expectative, on ne fait rien, dans 2-3 ans, ça peut changer. Et là, on peut être amené soit à donner des médicaments ou à envisager un traitement chirurgical. Donc le traitement, il est dynamique dans le temps. Ça va de l'expectative à la chirurgie avec, selon les symptômes, selon les femmes.
Alors évidemment, elle rapproche tout cela de sa santé gynécologique. Elle explique donc Pélagie que son cycle menstruel n'est plus régulier. Mais il y a une information importante également, c'est qu'elle allait un bébé.
Exactement. Je pense que l'absence de ses règles ou bien les perturbations qu'elle peut avoir de son cycle menstruel ne sont pas dues au fibrome. C'est certainement dû à son allaitement ou peut-être à autre chose. Les fibromes n'ont pas d'impact sur le cycle menstruel, mis à part peut-être les saignements que l'on peut observer et qui sont plus une irritation de la muqueuse fabriquant les règles, plus qu'un impact direct sur le cycle menstruel.
Docteur Abdoulaye Diop, quand on prend par exemple un contraceptif hormonal, autrement dit la pilule, est-ce que cela peut avoir une incidence sur la taille des fibromes?
Les médecins sont, la communauté scientifique est divisée par rapport à ça. Certains pensent que les fibromes, les contraceptifs n'ont aucun impact sur les fibromes. D'autres pensent que certains contraceptifs, notamment ceux qui ont des œstrogènes, peuvent avoir une influence ou avoir un impact sur les fibromes, car justement les fibromes sont œstrogènes-dépendants. Or, certains contraceptifs contiennent des œstrogènes. Donc la communauté scientifique n'est pas totalement d'accord.
Docteur Diop, on va rester au Bénin avec une autre auditrice.
RFI à Parakou, 106.1 FM.
Bonjour Rafiat.
Oui, bonjour Priorité Santé.
Alors vous êtes à Parakou, Rafiat, vous avez 35 ans. À quel moment, quand est-ce que les fibromes ont été détectés chez vous?
Il y a 2 ans, j'étais allée en consultation ou autre chose et le docteur m'a détecté les fibromes. Et vu la taille, il m'avait dit que ce n'était pas dangereux. Je lui ai demandé si on pouvait les traiter. Il m'a dit oui et il m'a prescrit des comprimés que je devais prendre au moment des règles, ce que j'ai fait normalement. Mais en juin dernier, j'étais allée en consultation pour me placer le DIU. Et c'est alors que la sage-femme dans le temps m'avait fait un toucher. Elle m'a dit qu'elle remarque la présence d'un corps. Il fallait que je fasse une échographie afin qu'elle soit sûre. Ce que j'ai fait, et elle a dit que les fibromes étaient toujours présents et que les fibromes et les DIU ne faisaient pas bon ménage qu'elle ne pourrait pas me placer le DIU. Donc, j'étais allée voir un autre gynécologue qui m'a dit non, qu'à vrai dire, ça ne pose aucun problème. Effectivement, il m'a placé le DIU. Et à part les trois premiers mois où j'ai senti de douleur, ça va maintenant et je n'ai plus rien.
Il n'y a pas d'hémorragie?
Non, il n'y a plus d'hémorragie.
Alors, DIU, hein, pour celles et ceux qui nous expliquent, vous le savez, c'est le dispositif intra-utérin. Il y a quelques années, on appelait ça un stérilet, mais on a changé de nom parce que c'était un petit peu stigmatisant, ce stérilet. Ça sous-entendait stérilité, ça ne va pas très bien. Quand on a simplement un contraceptif qu'on peut retirer et ensuite donc on peut avoir des grossesses une fois que le gynécologue a retiré dispositif intra-utérin. Ce sont des questions très importantes, hein, docteur Abdoulaye Diop, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de questions sur la fertilité, mais pour d'autres femmes, la problématique, et on le comprend, c'est la contraception. Alors comment expliquer la différence de vision entre ces deux soignants, une sage-femme ou une infirmière qui dit ça va pas être possible, madame, d'employer cette contraception, et puis le gynécologue finalement qui a vu Rafiat, qui non seulement lui a dit c'est possible, mais qui lui a posé le stérilet. Et en plus, maintenant, ça se passe assez bien.
Ben, c'est super pour elle, mais l'attitude première, c'est l'attitude de la sage-femme. Il n'est pas très conseillé de mettre en place un DIU quand il y a un fibrome. Parce que justement, cette association fibrome et DIU peut être à l'origine d'augmentation des saignements. Le principal effet secondaire d'un dispositif intra-utérin, ce sont des saignements. L'autre effet secondaire que l'on voit, en tout cas les signes du fibrome, c'est des saignements. Donc, deux choses qui donnent des saignements. Donc, on imagine bien que ça peut augmenter les saignements. Donc, de prime abord, on n'est pas très conseillé de mettre un DU chez une patiente qui a des fibromes. Maintenant, tout dépend de la place du fibrome. Si le fibrome, c'est un fibrome qu'on l'a dit tout à l'heure, sous-séreux, qui est à la superficie de l'utérus et qui n'a pas d'impact sur la muqueuse utérine, a priori, on peut mettre le DU. Peut-être que c'est ce que le médecin a fait et qu'elle n'a pas de symptômes plus que ça par rapport à ça. Mais la norme générale, c'est que l'installation d'un DU chez une patiente qui a un fibrome, c'est une contre-indication relative.
Ça veut dire que dans ces cas-là, quand précisément le myome est placé à un endroit qui va être problématique pour que l'on installe ce dispositif contraceptif, vous allez conseiller quoi aux femmes qui viennent et qui vous disent « Docteur, je voudrais ne plus avoir de bébé, où est-ce passé les naissances ?» Vous leur conseillez quoi?
Si la patiente a un fibrome, on fait une échographie très précise qui va cartographier le fibrome ou les fibromes. Et si les fibromes sont situés dans une zone où il y a une irritation de la muqueuse, on va déconseiller le stérilet, on va déconseiller le DU. On va proposer d'autres méthodes de contraception, telles que la pilule, telles que l'implant, telles que l'injection, etc. Maintenant, si ce fibrome ne semble pas gêner l'installation ou la pose d'un DU, on peut mettre le DU et proposer une surveillance régulière de ce DU et de ce fibrome.
Dans quel cas, docteur Abdoulaye Diop, pour bien l'expliquer à celles qui nous écoutent, parce que c'est vrai que si on va sur Internet, comme l'ont fait plusieurs d'entre elles, eh bien on voit très souvent que fibrome, ça conduit à la chirurgie. Et vous nous avez expliqué, c'est loin d'être systématique. Dans quel cas est-ce que le médecin dit, madame, on va prendre rendez-vous et puis on va passer sur la table d'opération?
Les fibromes qui nécessitent une chirurgie, c'est peut-être 5% des fibromes, maximum 10%. Ce sont les fibromes qui sont soit très volumineux, au point d'avoir un impact sur les organes de voisinage, donc qui compriment par exemple l'urètre et qui empêchent l'écoulement régulier des urines. Ce qui peut être à l'origine d'une détérioration ou bien une destruction du rein. Et donc là, ça c'est pas bon. Donc là, il faut envisager une chirurgie pour justement lever cet obstacle. Ou bien ce sont des fibromes qui sont extrêmement douloureux et que les traitements médicaux classiques n'arrivent pas à juguler. Ou des fibromes qui saignent beaucoup, nombreux et qui saignent beaucoup ou qui ont été à l'origine de fausses couches. Donc si vous avez des fibromes qui font saigner, si vous avez des fibromes qui vous donnent des fausses couches ou bien si vous avez des fibromes qui empêchent les organes voisins de fonctionner correctement, là c'est une indication de chirurgie. Mis à part ces cas-là, on ne touche pas aux fibromes.
On va boucler la boucle, docteur Diop. Je disais en début d'émission, une femme sur trois et jusqu'à une femme sur deux dans certaines régions du monde. On pense en particulier aux femmes d'origine afro-caribéenne. Est-ce qu'on a des explications pour savoir pourquoi, en fonction de notre origine, de notre ethnie, on va être plus ou moins à risque de développer des fibromes ?
Non, il n'y a pas d'explication. On sait, comme vous l'avez dit, que les femmes d'origine africaine et caribéenne ont plus de risques d'avoir des fibromes. Génétiquement parlant, est-ce que c'est dû à la mélanine? Est-ce que c'est dû aux conditions de vie? On ne sait pas. on ne sait pas, c'est génétique, mais il n'y a pour le moment aucune explication scientifique avérée et reconnue unanimement de l'apparition de ces fibromes.
Rafiat, est-ce que vous avez une autre question à poser à notre invité, au docteur Abdoulaye Diop?
Non, c'est bon, j'ai eu satisfaction, j'ai eu réponse à mes questions.
La réponse à vos questions, c'est bien le but de cette émission. Vous remercie infiniment à Rafiat d'être intervenu. C'est avec votre choix musical qu'on va se séparer et adresser une nouvelle fois un grand merci au docteur Abdoulaye Diop pour tous ses conseils à nos auditrices. Remerciements aussi à l'équipe de RFI Dakar. Docteur Diop, on se dit à bientôt.
Merci Caroline, à très bientôt, Inch'Allah.
On se dit à la semaine prochaine. La voix d'Amel Bent maintenant avec ce titre, Le chant des colombes, c'est le choix de Rafiat.
Je me dis souvent, j'ai pas trop le choix. À quoi bon chercher si c'est comme ça? Un jour j'ai trop, un jour j'ai pas. Un jour de trop, un jour je sais pas. Un jour de plus et je m'oublie moi. Ce refrain qui m'emmène insouciante, je me rappelle un instant, j'oublie ma peine. À chacun de mes pas, moi je compte les heures. On se retrouvera dans la joie et sans peine. Je poserai mes pas dans un monde où les gens me répondent. J'entends le chant des colombes. À chacun de mes pas, je sais. À chacun de mes pas. À chacun de mes pas, j'essaie. À chacun de mes pas. Parfois dedans, ça devient si sombre. Je prends sur moi, je sens que ça gronde. Comment rêver sans trop d'espoir? Comment grandir sans même savoir? J'étais sûre qu'il suffisait d'y croire. Ce refrain qui m'emmène insouciante, je me rappelle un instant, j'oublie ma peine. À chacun de mes pas, moi je compte.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Sétou Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurent Philippot et à Dakar, Maïmouna Diop. Un grand merci. Lundi, nous allons parler des mystères du corps humain, rôle des organes, rouages, interactions et performances insoupçonnées des composantes de notre organisme. On se dit à lundi. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année. Ciel d'Afrique.